Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est donc aujourd'hui la solennité de la fête Dieu. En fait, on peut dire que le mois de juin, officiellement, est consacré au Sacré-Cœur, mais on pourrait dire que le mois de juin est consacré à la Sainte Messe, au sacerdoce, à la Sainte Eucharistie, à tout ce qui tourne autour de la terre la plus précieuse que nous ayons dans l'Église catholique. Au centre de l'Église catholique, comme fondation même de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement qui est de loin le plus grand, notre Sainte Eucharistie, le plus grand des sacrements, parce qu'il ne contient pas simplement la grâce de Dieu, il ne nous donne pas simplement la grâce du bon Dieu, mais Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors, il ne faut pas s'étonner si, évidemment, ce... deux choses importantes à considérer. D'abord, toutes les protections que le bon Dieu a placées autour de ce Saint-Sacrement pour protéger cette perle précieuse entre toutes. Et en même temps, toutes les attaques contre le Saint-Sacrement et ses protections de la part du démon, de ses pompes et de ses œuvres, afin justement de détruire ce qui fait, je dirais, la fondation même de toute l'Église catholique. Ce sont des choses dont j'ai déjà souvent parlé. Il faut bien comprendre que là, le très saint sacrement, le sacrement qui contient donc le corps et la divinité, l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, puisque l'humanité est complète, il y a le corps, le sang et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'humanité sans corps et âme. Et donc, corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette divinité est donc unie à son humanité. C'est tout le mystère de l'incarnation qui va amener au mystère de la rédemption. Donc la fête Dieu, c'est une fête qui nous rappelle comment notre Seigneur Jésus-Christ va renouveler pour chacun d'entre nous, c'est ce que je vais expliquer, aussi d'expliquer pendant ce sermon, et l'incarnation et la rédemption. Et cette perle précieuse, elle est protégée par un certain nombre d'écrins. Le premier écrin, évidemment, c'est la Sainte Messe, renouvellement non sanglant, le sacrifice du calvaire. Le deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Mais on lui, parfois, qu'il y a un troisième écrin, l'épiscopat. Il n'y a pas de Saint-Sacrement sans messe, il n'y a pas de messe sans prêtre, il n'y a pas de prêtre sans évêque. Donc le démon, il a le choix. Qu'est-ce qu'il veut? Détruire la présence réelle. Il ne peut pas détruire notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré son orgueil, le démon sait qu'il ne peut pas détruire Dieu lui-même. Et par contre, il peut essayer d'empêcher les hommes d'atteindre Dieu. Donc il va attaquer... Il ne peut pas directement attaquer le très saint sacrement, donc il va l'attaquer indirectement en essayant de détruire l'adoration de l'homme devant Dieu, empêcher l'homme de s'agenouiller devant Dieu. Il va attaquer la Sainte Messe, il va attaquer le sacerdoce et il va attaquer l'épiscopat. Il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Puisque nous sommes catholiques, nous savons que nous ne pouvons pas survivre dans notre foi catholique sans le très saint sacrement, la messe, le sacerdoce et l'épiscopat. Et donc, il faut s'accrocher à toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je vais continuer un petit peu les mêmes explications. Donc, le démon va s'attaquer d'abord à la Sainte Messe, mais en même temps, avant de s'attaquer à la Sainte Messe, pour atteindre le Saint-Sacrement, il va attaquer l'épiscopat et le sacerdoce. Ça a été fait au mois de juin 1968. Donc, juste après Vatican II, l'Église de Vatican II a osé modifier des textes, le rituel de l'ordination sacerdotale et de la consécration épiscopale qui avait 2000 ans d'âge. Alors, comment essayer de juger ces choses-là en essayant de garder du bon sens? Je pense qu'on peut, en descendant la barre aussi bas que possible, on est obligé de dire qu'à cause de ces modifications liturgiques, faite par l'Église de Vatican II, il y a un doute énorme sur la validité de la nouvelle ordination sacerdotale avec le rituel de 68. Première chose. Deuxième chose, il y a également un doute énorme sur la validité de la consécration épiscopale à cause des modifications liturgiques introduites par l'Église de Vatican II pour changer et modifier le rituel de consécration des évêques. En 69, c'est la nouvelle messe qui arrive. Là encore une fois, un doute énorme sur la validité des consécrations de la nouvelle messe de 1969. Donc on va rajouter ces trois doutes Un gros doute, plus un gros doute, plus un gros doute, ça fait trois gros doutes. Dans la pratique, je pense que la vertu de prudence nous demande de considérer donc la nouvelle messe comme invalide, l'ordination avec le rituel de 68 comme invalide, et la consécration épiscopale comme invalide. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les conséquences. Conséquences sont énormes. Comme en plus l'Église catholique nous demande, dans tout ce qui touche les sacrements, d'être tussiuriste, c'est-à-dire d'aller toujours au plus sûr, nous avons donc l'obligation morale de considérer la nouvelle messe, le nouvel épiscopat et le nouveau sacerdoce comme invalide. On va me dire, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qui reste? Il reste que le bon Dieu est toujours Dieu. Et ça, le démon ne peut pas toucher. Que l'Église catholique est toujours l'Église catholique, toujours l'Église divine, une sainte catholique et apostolique, parce que les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Cependant, le bon Dieu a aussi dit qu'à la fin des temps, lorsqu'il reviendrait, qui sait s'y trouver encore la foi. Donc il faut s'accrocher. Alors essayons justement de comprendre à quel point le Très Saint Sacrement, puisque c'est aujourd'hui la fête du Très Saint Sacrement, à quel point le Très Saint Sacrement est pour nous une aide extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, le Saint Sacrement, c'est le renouvellement de l'incarnation et de la rédemption. De façon générale d'abord et ensuite de façon un peu particulière. Comment est-ce que ce renouvellement peut être expliqué? Bon, l'incarnation, c'est ce que c'est. C'est le Dieu qui prend chair, in carnis. Carnis en latin, c'est la chair humaine. In, dans. Donc c'est l'homme qui s'unit, le Dieu plus exactement, qui s'unit à l'humanité dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est toujours Dieu, il est parfaitement Dieu, mais il prend en même temps une chair humaine pour pouvoir mourir sur la croix, puisque Dieu en tant que Dieu ne peut pas mourir puisqu'il est éternel. Donc cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous sauver du péché, rattraper les conséquences du péché, c'est la rédemption. Redimere en latin, c'est racheter. Alors voyons un petit peu les choses. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Donc Dieu place sur l'âme du baptisé une marque spéciale qu'on appelle un caractère inamovible qui restera pour toute l'éternité. Et cette marque fait de nous des enfants de Dieu. C'est capital de rappeler ces choses-là parce que vous savez qu'aujourd'hui, Bergoglio, dans l'Église de Vatican II, nie sans même se cacher cette vérité absolument essentielle. Puisqu'il considère que tous les hommes sont enfants de Dieu, donc le baptême ne sert plus à rien. Donc par le baptême, on a déjà une union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'une certaine façon, c'est la préparation un peu du mystère de l'incarnation qui se fait en nous. Certes, ce n'est pas encore complètement l'incarnation. Pourquoi? Parce que le baptême nous donne la grâce de la charité, une grâce créée, attention. Mais il n'y a pas encore de présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le baptême, puisqu'il n'y a pas encore de communion. Puis l'enfant va recevoir la confirmation, deuxième marque inscrite, imprimée sur notre âme. Cette fois-ci, par la confirmation, on devient soldat de Dieu. Donc à la première marque qui fait de nous, de façon définitive, des enfants de Dieu, arrive une deuxième marque, un deuxième caractère qui fait de nous des soldats de Dieu. Puis tous les autres sacrements vont se rajouter, notamment le sacrement de pénitence pour enlever les catastrophes qui arrivent par le péché, et les sacrements qui nous permettent de survivre dans le monde moderne, à savoir le sacrement de l'ordre, sacrement du mariage aussi, les sacrements d'extrême-onction, ces sacrements justement pour mettre en nous cette fois-ci la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit déjà l'image en quelque sorte de l'incarnation et de la rédemption. Mais par la Sainte Eucharistie, on monte à un niveau beaucoup plus fort. Pourquoi? Lorsque vous et moi, nous recevons la Sainte Communion, c'est beaucoup plus qu'une image cette fois-ci. On reçoit Dieu lui-même. C'est plus la grâce du bon Dieu qu'on reçoit, on reçoit l'auteur de la grâce. Donc, quand vous et moi nous communions, surtout si nous sommes en état de grâce, quand nous communions en état de grâce, nous renouvelons le mystère de l'incarnation. Vous et moi, nous sommes à ce moment-là comme la Très Sainte Vierge Marie, le 25 mars, qui vient de dire oui à l'ange Gabriel, qui lui a demandé de devenir la mère de Dieu. À l'instant précis, la très sainte Vierge Marie donne son fiat, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne. La deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu lui-même, s'unit à l'humanité dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie. Et notre Seigneur Jésus-Christ va commencer en tant qu'homme à apparaître, puis à grandir dans le sein de notre Sainte Vierge Marie pendant les 9 mois de sa grossesse. Eh bien, mes bien chers frères, lorsque nous communions, nous recevons le même Dieu. Exactement le même. Le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité que Notre-Dame a reçue en son sein pendant 9 mois. Donc nous renouvelons l'incarnation. Vous et moi, nous devenons comme la très sainte Vierge Marie et nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Le même Dieu. Évidemment, il y a quelques différences quand même. Première différence, c'est que notre sainte Vierge Marie a conservé en elle notre Seigneur Jésus-Christ avec son humanité et sa divinité pendant 9 mois. Nous ne le conservons en nous que pendant le temps où les espèces eucharistiques sont dans notre nature humaine, dans notre estomac. Lorsque les sucs digestifs dissolvent la Sainte Eucharistie, eh bien à ce moment-là, la présence réelle disparaît. La grâce demeure, mais la présence réelle disparaît. Deuxième différence, qui est aussi une différence de taille, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a pris chair dans le sein de la Sainte Vierge Marie, il a pris chair dans une nature humaine, notre Sainte Vierge Marie, qui était Immaculée Conception. Nous, on n'est pas trop Immaculée Conception. À ma connaissance, il n'y en a qu'une. Et donc le bon Dieu, il vient en nous avec une nature, dans une nature, il s'incorpore à une nature qui n'est pas aussi sainte, bien sûr, que celle de notre Sainte Vierge Marie. La Sainte Eucharistie nous est donnée, nous la réceptionnons en quelque sorte, au cours de la messe. La messe c'est quoi? Renouvellement du sacrifice de la croix. Donc là, c'est la rédemption. Donc à chaque fois qu'on communie, on renouvelle de façon active l'incarnation et la rédemption. Enfin si, c'est plus qu'un symbole. Je viens de vous expliquer qu'avec les sacrements, comme le sacrement de baptême et la confirmation, on commençait déjà à avoir en nous une idée de l'union que doit posséder une âme avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par la Sainte Eucharistie, c'est beaucoup plus qu'un symbole. C'est l'union qui se concrétise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la Sainte Messe? Je pense qu'il faut méditer sur 2 choses importantes. D'abord, méditer sur l'incarnation. Donc, une meilleure façon peut-être de faire son action de grâce après avoir reçu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de faire votre action de grâce, quelque chose de très important après la communion. Eh bien, il faut méditer sur Notre-Dame qui reçoit notre Seigneur. Je viens de communier, je reviens à ma place, à la chapelle, à l'oratoire, et je suis comme la très sainte Vierge Marie qui vient de dire oui à l'ange. Le même Dieu, la même humanité, la même divinité, le même corps, le même sang sont maintenant en moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ va s'unir à nous de la même façon qu'il s'est uni, en quelque sorte, à notre Sainte Vierge Marie. Bon, bien que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ soit différente, sur le plan personnel, de l'humanité de la Très Sainte Vierge Marie, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et l'humanité de la Très Sainte Vierge Marie sont deux humanités, c'est la même humanité au sens général, mais la personne de la Très Sainte Vierge Marie n'est pas la même que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour nous. Cependant, nous nous unissons un peu comme deux cierges allumés, une belle image qu'on peut utiliser, qui brûlent ensemble l'un à côté de l'autre, qui finissent par former qu'un seul cierge. Parce que la cire fond, et à ce moment-là, les deux flammes se réunissent pour ne former qu'une seule flamme, qu'un seul cierge. Le deuxième point de méditation, me semble-t-il, pour notre action de grâce après la Sainte Communion, c'est de nous mettre au pied de la croix. Puisque la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix, eh bien il faut nous placer au pied de la croix, à côté de Sainte Marie-Madeleine, au pied de la croix, elle reçoit les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ, elle reçoit le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur elle, nous mettons à côté d'elle pour être nous aussi éclaboussés par le même sang qui nous rachète. Et c'est ça la grandeur de la Sainte Eucharistie. Une fois qu'on a compris ça, plus qu'une seule chose à faire, c'est tomber à genoux en adoration, en action de grâce. La messe, c'est ça. La communion, c'est ça. Par la communion, je renouvelle et l'incarnation et le mystère de la rédemption. Il n'y a pas une seule église qui a un Dieu si proche de ses enfants. C'est bien pour cela que l'Église catholique est la seule véritable Église. Ceci explique pourquoi la Très Sainte Vierge, l'Église, Sainte Église catholique a voulu que la réception de la Sainte Eucharistie soit associée à un certain nombre de règles pour nous préparer psychologiquement, spirituellement et physiquement à recevoir un cadeau pareil. Justement, c'est un des crimes de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir en quelque sorte démocratisé l'Église. Et Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église catholique, littéralement. On rabaisse Dieu jusqu'à l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu dans le mauvais sens du terme. Eh bien, avec la Sainte Eucharistie, c'est exactement l'inverse qui se fait. Et donc, il y a une préparation d'abord spirituelle, il y a une condition sine qua non pour recevoir ce mystère, pour s'incorporer en quelque sorte au mystère de l'incarnation et de la rédemption. Cette condition sine qua non, c'est l'état de grâce. Donc la première condition pour pouvoir recevoir dignement le Saint-Sacrement, la Sainte Communion, c'est l'état de grâce. Nous venons de le lire avec saint Paul aux Corinthiens. Celui qui boit et mange le corps de son Seigneur sans discernement, c'est-à-dire en état de péché mortel, boit et mange sa propre condamnation. Donc, communier en état de péché mortel, c'est plus grave des choses qu'on puisse faire ici-bas. C'est comme vraiment ouvrir la porte du tabernacle, prendre les hosties consacrées, les jeter en pâture aux chiens ou aux cochons. Ça, c'est la première préparation. Mais attention, il y a une deuxième préparation qui est demandée. Dans Saint Pédis, dans le catéchisme Saint Pédis, il est parlé d'une préparation psychologique. Il appelle ça l'intention droite. On l'oublie un peu trop, ça. C'est une des conditions que Saint Pédis donne pour pouvoir recevoir dignement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir l'intention droite. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention droite? De savoir ce qu'on fait. Une maman, par exemple, qui a un enfant en âge de première communion, qui a déjà fait sa première communion, qui constate que pendant la Sainte Messe, l'enfant était extrêmement distrait à regarder les mouches voler pendant toute la messe au lieu de suivre la Sainte Messe, autant que faire se peut, aurait le droit de dire à son enfant, je ne pense pas que vous êtes en état de communier et donc vous ne communiez pas aujourd'hui. Bon, je ne dis pas ça pour nous éloigner du Saint-Sacrement, mais pour nous aider à comprendre ce qui se passe en nous lorsque nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut cette préparation psychologique. Alors, l'intention droite, dit Saint Pédis. Il faut aussi rajouter une préparation physique. Il y en a deux, dit Saint Pédis. Première préparation physique, le jeûne eucharistique. Ne pas l'oublier. Le jeûne eucharistique, à savoir, pour le prêtre, le temps est à compter depuis le début de la messe, jusqu'au début de la messe, pour les fidèles, jusqu'au moment de la communion. Le jeûne eucharistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'eau ne rompt pas le jeûne, alors vous pouvez prendre un verre d'eau avant la messe si c'est nécessaire, vous avez le droit, s'il y a des médicaments à prendre, quelqu'un peut prendre des médicaments avant la messe, parce que ce n'est pas considéré du tout comme nourriture. Le liquide qui n'est pas de l'eau, comme par exemple un café ou un jus d'orange, c'est une heure avant la messe pour le prêtre, une heure avant la communion pour les fidèles. Et la nourriture et l'alcool, 3 heures avant la messe pour le prêtre et 3 heures avant la Sainte Communion pour les fidèles. Et Saint Pédis rajoute une autre chose qu'on oublie aussi complètement. Donc il dit, état de grâce, la préparation, l'intention droite, le jeûne eucharistique et l'habit de circonstance, dit-il. Ça aussi c'est une chose. L'habit de circonstance, quand on va communier, imaginez que vous alliez y aller à un rendez-vous avec un haut dignitaire civil, mais en fait que vous n'allez pas y aller en short et en basket. Eh bien, c'est la même chose avec notre Seigneur. Donc avoir une attitude, une tenue extérieure qui correspond à la dignité de l'action que nous allons accomplir. Et alors, je ne vous donne pas tous ces détails du catéchisme, qui n'en sont pas d'ailleurs, c'est des choses importantes, pour vous pousser à ne pas communier, bien sûr que non. Pas qu'à la suite de ce sermon, il avait dit qu'il fallait avoir une intention droite, j'ai pas une intention droite, donc j'arrête de communier. Mais non, pas du tout. C'est tout ce que je veux dire. Mais en même temps, il faut comprendre la grandeur d'une âme qui reçoit la Sainte Eucharistie. Et donc, la grandeur, si vous voulez, du catholique, c'est que le catholique peut s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement, il a reçu le caractère du baptême, le caractère aussi de la confirmation, pour pouvoir justement s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ et assister à la Sainte Messe. Donc, remercions le bon Dieu de nous avoir donné la messe. Et ça explique pourquoi le démon s'attaque à toutes ces choses. Pourquoi le démon s'est attaqué à la Sainte Messe, s'est attaqué à l'Épiscopat, s'est attaqué au sacerdoce, pour pouvoir couper l'homme de la Sainte Eucharistie. Imaginez un peu ce qui se passe dans une âme lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi, vrai Dieu, grand prêtre éternel, pénètre dans une âme. Imaginez un peu ce que ça doit être. On a beaucoup de mal à imaginer ces choses-là. Imaginez un soleil qui arrive dans une pièce qui était dans l'obscurité la plus totale, qui illumine littéralement toute la maison. Et Dieu doit vous dire que si le démon est à la porte, il s'en va en courant. Il ne peut pas supporter la lumière du soleil. Ah, mais bien, chers frères, pensons à celle qui a reçu notre Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu notre Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. La très sainte Vierge Marie, qu'il a donc reçue le jour de l'incarnation, et qui après, pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, a été associée de façon extraordinaire à la présence physique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle s'est occupée de lui, pas simplement en son sein pendant 9 mois, depuis le 25 mars jusqu'au 25 décembre, mais également après pendant 33 ans. Imaginez par exemple la très sainte Vierge Marie en train d'assister tous les jours à la Sainte Messe de Saint-Jean. Vous croyez que la très sainte Vierge Marie devait compter les mouches? Regarde les mouches voler pendant qu'elle assistait à la Sainte Messe de Saint-Jean. Saint-Jean s'est occupé de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie a dû assister à la Sainte Messe du dernier des apôtres vivants, Saint-Jean, pendant jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce, mes bien chers frères, pardon, cette grâce de ne jamais, jamais mépriser ce sacrement. Quelque chose lamentable de voir justement ce manque d'adoration. Je pense que s'il fallait définir le 21e siècle dans lequel nous sommes obligés de vivre, c'est le passage de l'adoration de Dieu à l'adoration de l'homme. On a mis le bon Dieu dehors et à la place du bon Dieu, on met l'homme. Au lieu d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, on adore l'homme et toutes ses conséquences. Et derrière cette adoration de l'homme, il y a l'adoration du démon, évidemment. Le démon vient prendre la place de Dieu parce que le démon est le singe de Dieu. Il ne peut pas devenir Dieu, il peut se faire présenter, se présenter comme étant Dieu pour solliciter l'adoration de ses enfants. Et bien, nous rattrapons justement tout cela en adorant notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez le bon Dieu si vous avez la messe. Remerciez le bon Dieu si vous avez la Sainte Eucharistie. Remerciez le bon Dieu si vous avez le sacerdoce tout proche de vous, justement, eh bien parce que le bon Dieu, s'il nous a donné des grâces pareilles, eh bien, il nous demande d'utiliser ces grâces. Il n'y a rien de pire que d'avoir un cadeau extraordinaire à côté de soi, refuser de l'ouvrir, de l'utiliser pour notre plus grand bien. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre tous ces mystères extraordinaires. Le mystère du sacerdoce, le mystère de la Sainte Messe, le mystère de la Sainte Eucharistie, le mystère de l'Épiscopat. Afin que justement nous puissions vraiment dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». La prière de saint Thomas, d'y retrouver la foi. Demandons à ta Sainte Vierge Marie de nous protéger, de nous guider, pour que nous gardions toujours la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.